Français à toutes et bienvenue sur Radio Campus Rennes 88.4. Il est 13h02, nous sommes le lundi 23 mars. Je suis Fred et nous sommes dans Melting Pop sur Radio Campus Rennes 88.4. Melting Pop, c'est l'émission de la pop et de la contre-culture. Comme tous les lundis, nous vous invitons à découvrir un angle de cette contre-culture avec nous autour d'un thème. Et ce thème aujourd'hui, ce sera les mondes imaginaires. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis parce que je suis un tout petit peu narcissique. Je suis Fred et je vous accompagne pendant une heure d'émission. Avec moi aujourd'hui, plein d'invités, plein de gens dans le studio.
Non, pas trop, non.
Voilà. Okay. Not my tempo. Plein de gens dans le studio, donc l'équipe de d'habitude, donc à ma droite, Antoine.
Salut tout le monde.
Ça va Antoine?
Ça va très bien et vous?
Ça va, tu me vous vois encore une fois?
Putain, t'es pas le centre du monde.
Oh bah non, mais je suis pas loin donc ça va. À la technique comme d'habitude, Jérém.
Yo.
Et pour remplacer Paul, parce que monsieur a décidé de plus venir, Léna.
Salut.
Donc, bien sûr, ça va Léna?
Ça va très bien.
Voilà. Tu, on te dépucelle de Melting Pop, on t'était déjà venu une fois mais...
ok, c'était quoi ça?
Tu reviens.
On se calme, on se calme.
Il y a une fille dans le studio. Non, Paul arrivera un peu plus tard, il aura du retard parce que monsieur aime faire des entrées fracassantes, donc voilà. Et pendant ce temps-là, mon siège se baisse et je vais mourir. Bref. Aujourd'hui, donc, on va parler des mondes imaginaires, thème choisi par Antoine, donc ça a intérêt de bon.
Oh non, c'est quoi cette pression là?
Ouais. Je te préviens, je t'évalue aujourd'hui, hein. Ça passe.
La casserole.
On va voir si t'as ton code de la radio, hein. Attention. Passer 5 fautes, c'est fini. Donc tout de suite, on va s'écouter une petite virgule avant de revenir avec Antoine qui nous va faire un top 5 aux petits oignons de Spolette.
There is a fifth dimension beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. This is the dimension of imagination. It is an area which we call the Twilight Zone.
Voilà, donc comme j'ai décidé de pas me casser les couilles cette semaine, je vous ai juste mis l'introduction de la série Twilight Zone qui date de 1953, connue sous le nom de la quatrième dimension en France. Donc Antoine, tu vas nous faire un top 3.
Bah, 3, mais on peut faire un top 5 si vous êtes motivé.
Je note une faute.
Enfoiré, bah. Culé, bah. Bref. Bon, pour une fois depuis bien longtemps, je m'essaye du coup au top 5 ou top 3, ça dépendra de comment t'es sympa aujourd'hui.
Ouais, au top quoi.
Ta gueule, ouais, au top.
Oh là, il y a le micro.
Lancez le micro.
Et il casse le studio, allez.
Laisse ça.
Bon, parce que bien qu'il y a de multiples de failles, de portes ou de phares qui mènent vers d'autres univers, je peux
pas faire de fente même, on pourrait dire.
Ta gueule, il m'est impossible de parler de toutes les œuvres, qu'elles soient cinématographiques, littéraires ou autres, en moins de 10 minutes. Du coup, je vais parler de ces mondes parallèles qui ont bercé mon enfance ou qui m'ont tout simplement fait voyager, comme l'aurait pu faire le film On the Road s'il avait été bon.
Comme tu n'étais qu'un petit bébé barbu.
Comme c'est mignon.
Putain. Tu fatigues déjà.
La barbe, c'est depuis toujours ou...
Non, ça va. Et la tienne alors?
Oh,
ça pousse. Ça évolue.
S'il doit y avoir un combat de filles, je veux que vous soyez dans la boue et torse nu.
Antoine, enchaîne. Tu enchaînes.
Bon, je vais pas vous parler de Bioshock, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts par Fred. Du coup, voilà. Du coup, je vais commencer par une célèbre œuvre que sûrement tout le monde connaît, mais que certaines personnes n'ont pas vue peut-être, qui a été écrite par Tolkien, paru en 1954 ou 55, en 3 volumes, qui a donné Le Seigneur des Anneaux au cinéma. Je sais que Fred, tu as envie de vomir, mais
j'ai rien
tu fermes ta bouche.
Je me tais. Je ravale mon.
Et voici l'entrée fracassante d'un hobbit, du coup, du.
Ah,
moi, je te foudrais la gueule!
Du coup, il a niqué la pleine rapidité de mon intro, cet enfoiré. Du coup, l'histoire met en avant un hobbit, des personnes de petite taille comme certaines ici présentes.
Ah, bah j'arrive au bon moment.
C'est ça. Nommé Frodon, qui après avoir trouvé un anneau magique qui permet de disparaître, doit le plonger dans la montagne du destin. Dit comme ça, ça fait
doit
vraiment...
le plonger dans la montagne du destin. C'est-à-dire qu'il y plonge la main lui aussi, ou bien comment ça se passe? Parce qu'il fait un peu chaud, il paraît.
Bah, il perd un doigt. En fait. Merde, spoil.
Il perd un doigt.
T'as raison. Bien sûr, il y a des grandes guerres épiques.
Salut.
Si vous voulez, je peux y aller, si vous voulez. Moi, je vous emmerde.
Salut tout le monde.
Bonjour Paul.
Bonjour Paul, bon, oui, on va refaire. Bienvenue dans Melting Pop aujourd'hui. Donc.
Ah, merci.
Bref, bon, il y a des grandes guerres épiques, des races multiples, des histoires de cul, des plans qui servent à rien, un happy end de bâtard. Bref, voilà, l'œuvre se situe dans ce que l'on peut appeler l'heroic fantasy. Ça va comme ça ou pas?
Non, mais c'était vachement bien.
C'est bon, ta gueule. Le Hobbit, il va fermer sa gueule.
Ah, t'as 10 bits, j'ajoute une faute.
Oh, putain. Mais toi, du coup, t'es à moins 20, toi.
Oui.
Récemment, on a eu le droit au préquel du Seigneur des Anneaux avec Bilbo le Hobbit qui a été. Je sais pas si. Oui, si, quand même, était bien, personnellement, j'ai trouvé ça bien. Toi, t'as préféré le Bilbo le Hobbit au Seigneur des Anneaux, toi, non?
Ouais, mais alors d'ailleurs, c'est pas un préquel, parce que ça a été écrit avant. Finalement, au final, le Seigneur des Anneaux est une suite du Hobbit, mais le Hobbit n'est pas un préquel, c'est pas parce qu'il a été réalisé après. Bref, je me comprends.
C'est sûr que si Bee Bobby c'est un préquel, parce que Frodon c'est le...
Non,
le...
c'est un préquel que si c'est une histoire qui a été créée après l'histoire originale pour raconter la, ce qui s'est passé avant.
Pardon. Un prélude. Voilà. Excusez-moi.
Donc je rajoute une faute.
Oh putain.
T'es déjà à 3. Hein.
Ta gueule.
Tu l'auras pas ton code de la radio.
Bon, en quatrième position, il y a le livre écrit par David Mitchell, paru en 2004, et qui est donc le film réalisé par les Wachowski, Cloud Atlas, ou La cartographie des nuages, sorti en 2013.
Léna, elle a ponctué ça d'un. Ça se dire, oulala, on part du sérieux là, alors on va pas rigoler les cochons là, parce que...
Oh ça va, bref, on peut sembler comme un bric-à-brac de monde parallèle, avec plusieurs histoires qui s'entremêlent entre le passé et je viens de faire exploser les deux tympans par la technique de...
Ah,
c'est
merde.
Pas la technique, non, en fait, faites gaffe au micro...
Donc, Claude Atlas
juste faites gaffe au micro, enfin approchez pas trop les caisses des micros, ça fait des larcènes.
Ah oui.
D'accord, ah, c'est okay. Génial. Quel matos de malade. Donc du coup, du coup donc avec les histoires différentes qui s'entremêlent entre le passé, le présent et le futur, on suit le parcours de certains personnages à différentes époques, avec une magnifique BO qui est signée par M83 et des acteurs tels que Halle Berry.
C'est eux qui ont fait la BO du
oui.
film M83.
Bah, Outro, c'est la.
C'est oui, la... c'est dans le film, mais je pense pas que c'est eux qui avaient fait le...
Si,
d'accord.
Si, c'est 83 qui a fait la BO de Coup d'Aclasse.
Ah, c'est stylé, ça.
Du coup, on voit les Berry, Russell Crowe et plusieurs d'autres. Et en fait, le concept de l'histoire, c'est, fin, c'est que en fait, tous les acteurs jouent le même personnage à différentes époques. Enfin, en gros, il y a 6 personnages et il y a 3 acteurs, en fait. Du coup, voilà. Et du coup, ils sont méconnaissables. Genre, j'avais même pas compris ça au début, ils sont méconnaissables.
Faut le regarder
c'est
3 fois.
C'est Hugh Grant, surtout, qui est méconnaissable, genre en mode indien.
Oui. Et après, non, aussi, Halle Berry, quand on passe de, du futur au présent.
Bah, surtout Hugo Weaving, qui joue à un moment une femme.
Ouais, qui joue une infirmière, c'est magnifique.
Et qui m'a fait reconsidérer mon amour des hôpitaux, d'ailleurs. Les infirmières.
Bref, sinon, le film s'est pris un gros four aux États-Unis, mais il a cartonné dans les pays de l'Est. Comme pas, bah, ce qui est marrant, c'est que tous les films des Wachowski ont tous... Par Matrix, c'est pris un four aux États-Unis, mais au pays de l'Est, c'est catastrophique. Ils se prennent un truc mais immense sur le carton monumental. Genre Jupiter Ascending qui.
Merdique.
Voilà, merci Léna.
Ça, c'est de la critique.
Je suis d'accord avec Léna.
Mais c'est un scandale en vrai.
C'est la critique télé 7 jours.
Il s'est pris une grosse branlée aux États-Unis et en Chine, il a fait un de leurs plus gros cartons, quoi. Enfin, bon. Voilà, c'est
mais c'est
les
Chinois aussi, attends.
Ils comprennent on a
l'amical Sino de Rennes là, qui veut te dire quelques mots.
Merde.
Sinon, le livre est vraiment intéressant, donc du coup, pour la cartographie des nuages, mais a été heureusement largement simplifié comparé au film, bon, qui est toujours très compliqué. Enfin, franchement, le bouquin est encore plus compliqué que le film, donc je vous laisse imaginer.
Bon, en plus, il y a certains passages du bouquin, tu sais, pas les passages sur l'esclavagisme, le segment, le premier qu'on voit. Oui, je crois que c'est le premier. Je suis plus sûr.
C'est pas sur le bateau.
Si, c'est sur le bateau.
C'est ça.
Il est écrit en vieux anglais et en vieux français dans la traduction.
Oui, punaise. Justement, j'ai décroché dès les 20 premières pages.
C'est hyper marrant.
Je l'ai même pas lu.
Genre, c'est à la fin du livre, tu fais « Ah, c'est ça qui s'est passé !» Et en fait, tu te rends compte que le mec est mort depuis le début.
Mais surtout, ils ont changé pas mal de choses dans le film, en fait. Il y a des trucs qu'ils ont mis en avant, genre par exemple l'homosexualité du personnage sur le bateau, elle est inexistante. Enfin, elle est inexistante, c'est pas qu'elle est inexistante, mais elle est pas du tout intéressante dans le bouquin, en fait. Du coup, sinon, il y a aussi certains personnages qui ont été enlevés.
Il est pas homosexuel sur le bateau ? C'est le mec qui fait la cartographie, le sextet des nuages qui est homo.
C'est pas qui ouais c'est ça. Bon bref,
ils sont tous pédés de toute façon.
Oh ça va, hein. Tu te calmes Denis.
Ah je les aime pas. Allez venez, on vous attend.
T'es sérieux putain.
Non bien sûr on déconne, on aime les gens gays.
T'allais dire quoi? Bref, bon, je ne pouvais pas louper bien sûr aussi la série que tout le monde attend avec impatience, inspirée des livres de George Martin, qui était écrit depuis 1996. Donc l'histoire se déroule dans un monde médiéval fantastique, dans le pays de Westeros et Essos. Donc du coup, je vous parle de
Harry Potter.
Game of Thrones.
C'est pas Harry Potter.
Non. Oh putain, oula. J'ai même pas pensé à mettre ça tellement c'est mauvais. Du coup,
bonne nuit.
Oh non, faut pas déconner. Bref, comme intrigue principale, la conquête du trône, du coup, qui donne le droit de régner sur les 7 royaumes. Même si l'œuvre ou la série fait office des 10 petits nègres d'Agatha Christie, parce qu'il y a plus de morts que de vivants au final dans Game of Thrones. La série s'est voulue fidèle au bouquin avant de s'en éloigner et de faire son propre bout de chemin. Parce que pour ceux qui vivent encore dans des grottes, sauter dessus, franchement. Et la prochaine saison commence le 12 avril prochain. Et ils ont déjà. Alors justement, il y a une polémique qui est en train de tourner. C'est qu'à la base, ils voulaient faire 7 saisons. Parce que.
7 royaumes, 7 couronnes, tout ça.
Déjà, puis 7 bouquins surtout.
7 bouquins.
Et le problème, c'est que l'auteur, en fait, a des problèmes de santé. Et il ne peut pas. Enfin, c'est pas qu'il peut pas, mais c'est qu'il est en mauvaise position pour écrire un autre bouquin. Et au final, maintenant, ils veulent faire 10 saisons.
D'ailleurs, j'ai établi une théorie sur George Martin. Je pense qu'en fait, quand il choisit qui va mourir, il a un dé avec les personnages dessus. Et genre quand ça sort, il fait bon bah c'est Tyrion. Tu vois.
Mais tu me diras non.
Il y a pas Tyrion sur le dé.
pas Tyrion
est immortel.
Non, Tyrion, il y a une fléchette, il y a un truc avec une autre cible. Tu vois, le jour où il touchera au milieu, on sera tous dans la merde. Mais bon, comme il est complètement malade, il n'arrive jamais à viser le milieu.
Tu me diras, non, c'est, enfin, justement, la série vient de dire, enfin, les auteurs de la série on vient de dire justement qu'il n'y a plus aucun rapport avec le bouquin et qu'il va y avoir des morts qui ne sont pas censés être dans le bouquin et qui vont arriver.
C'est pas qu'il n'y a plus aucun rapport, mais c'est que eux connaissent déjà la fin et qu'ils n'ont pas envie de faire la même chose que ce que Martin a fait, parce que les bouquins, rendus là où il est rendu, c'est incompréhensible hein, ce qu'il fait. Le mec, il s'est perdu dans tellement d'intrigues. Il y a des moments, il te ramène un personnage, tu fais genre. Mais il est pas mort 6 tomes avant, ce mec. Enfin, c'est n'importe
c'est
quoi comment il l'a fait.
Comme Kathleen Stark, elle est censée revenir à la vie. Hop, ouais. Oh, spoil.
Spoil.
Alors là, on va se faire associer.
Et, que... et Daenerys, elle meurt.
Attends, tu vas vraiment faire buter. Mais le pire, c'est que je crois que les spoils de Game of Thrones sont les plus violents qui existent. Genre, ah bah quelqu'un spoil Game of Thrones, mais t'as envie de le buter, quoi.
Alors moi, ça m'avait fait marrer. J'ai une petite histoire comme ça. Ma mère, quand elle a vu la saison 1, elle a vu que Ned Stark se faisait couper la tête. Spoil. Et en fait, elle a dit à ma sœur qui avait jamais regardé Game of Thrones, ah du coup, t'as vu quand Ned meurt?
En plus, tout le monde dit que Ned, c'est le personnage le plus génial du début du
jury.
Il était trop bien, tu te dis. Ah.
En même temps, c'était Sean Bean, vous attendiez à quoi?
Il s'est fait tuer par un petit con.
Grave.
C'était Sean Bean, vous attendiez à quoi? Ce type, il demande à mourir pour ses contrats, tu vois.
Par contre, j'ai une question, pourquoi c'est John Lennon qui présente l'émission?
C'est clair, oui, parce qu'on vous a pas dit, mais Fred, pour des petites lunettes.
Parce qu'on a changé de monde, on est dans les mondes imaginaires. Donc j'ai ouvert mon esprit.
Du coup, t'es
un peu naze.
Oh là là.
Du coup,
non, peut-être que c'est juste que j'ai envie de porter mes lunettes rouges et que je vous emmerde aussi.
Tu vas te calmer, Janis
Joplin. T'es en accord avec les miens,
c'est bien. Joplin. Bref, sinon, j'aurais pu très bien vous parler aussi de Defiance.
Elle te fait bander, mon cochon.
Bébé.
Mais pas de Defiance, qui est aussi. Alors, Defiance, c'est un jeu vidéo à la base en ligne qui se base dans une planète extérieure avec des aliens et tout ça. Enfin, un peu.
Non, c'est notre monde dans Defiance.
Ouais, mais plus tard, au futur.
Oui, c'est dans le futur, pardon.
Oui. Oh putain, il m'a coupé tout le temps celui-là.
Et de 4.
Et du coup, donc la série a été produite la série a été créée, du coup, elle est diffusée sur la chaîne Sci-Fi. Et bon, il paraît que ça se passe plutôt bien. Enfin, j'ai cru comprendre que la saison 1 était moyenne et la saison 2, ça continue.
La 2, il y a eu un petit pic d'audience, c'est un peu
c'est
amélioré.
Ça. Ouais. Et bon, après, personnellement, c'est pas le truc de ça qui m'intéresse. Du coup, voilà, j'aurais pu aussi très bien vous parler de tout ce qui est. Star Wars, bien sûr, mais bon, je pense qu'on en a déjà assez parlé. Je parle aussi des mondes apocalyptiques avec Hunger Games, Divergente, Le Labyrinthe.
Mad Max
aussi, qu'on en parlera du coup à la fin de l'émission. Et du coup, voilà.
Bah, merci Antoine. Merci Antoine pour cette chronique.
Hein.
Non, ça va par rapport à.
Tu m'as niqué tous mes points là.
Oui, mais finalement, t'as ton code parce que t'as fait que 4 fois.
Oh, putain, si j'en avais fait plus que ça, mec.
Non, mais alors pour revenir sur Defiance, moi j'aime beaucoup cette série, mais je croyais que le jeu vidéo était créé en même temps que la série pour faire des univers.
Non, elle a été créée un peu avant, je crois, parce que du coup, la série, le temps de production en fonction du temps de production de jeu, c'est pas la même chose, donc du coup, ils ont décidé de faire ça plus après, quoi.
Certes, ok, d'accord. Bah, merci beaucoup, Antoine. Des réactions peut-être, je sais pas.
J'aurais pu parler de BioShock, mais j'ai pas voulu le faire.
T'aurais peut-être dû. Moi, j'aime beaucoup BioShock.
Oui, mais j'avais pas parlé 3 fois de suite.
D'ailleurs, il est toujours gratuit sur le Xbox Live.
Ouais, j'en ai téléchargé.
Xbox, ouais, faut que je le télécharge.
Et j'ai lu aussi par rapport au film. J'ai vu. Ah, il y a une vidéo dessus sur BioShock. En gros, ils ont imaginé le casting parfait pour le BioShock. Et t'as Jack Nicholson en tant que Booker. Ce serait génial.
Je viens de salir mon pantalon.
Ouais, voilà.
Et c'est qui pour la nana?
Pour la nana, je sais pas.
C'est Jack Nicholson aussi.
Non, Shailene Woodley, je crois. Ils ont voulu.
C'est vrai?
Ouais, Shailene Woodley.
Oh, ce serait pas mal.
Ouais, ça serait pas mal. Ouais.
Faut que j'envoie un petit message à Jack Nicholson. Prends le rôle. Fais-le.
Du coup, voilà.
Eh ben, merci beaucoup, Antoine. Tout de suite, qu'est-ce qu'on va s'écouter?
Bah, du coup, comme on n'a pas de clou de la classe et de la BO de M83, j'ai essayé de mettre outro de
M83. Et on va bien voyager avec cette petite musique bien sympa avant de revenir avec.
Regarde ton putain de conducteur.
Ouais. De revenir avec ça, c'est pro, c'est beau. Avec moi.
Thank you.
On revient sur Radio Campus Rennes 88.4 dans Melting Pop, épisode 21 sur les mondes imaginaires après Outro de M83.
Avec Morpheus.
Avec Morpheus à ma droite.
Pilule rouge ou pilule bleue ?
Pilule rouge ou pilule bleue ?
Moi, celle qui fait grossir le zizi. Puisque je me suis fait... Donc, tout de suite, la rubrique personnage. Parce que je reviens avec la rubrique personnage. Puisque je me suis fait honteusement pomper mon top 5 par mon camarade Choplin, Janice Choplin, j'ai essayé de faire comme je fais des fois et de vous parler d'un personnage aujourd'hui et pas de n'importe quel personnage. Je dis beaucoup le mot personnage. Puisque je vais me prendre vous parler d'un personnage ayant vraiment existé.
C'était sympa le petit Star Wars qui a volé là.
Le petit Star Wars.
La guerre des étoiles.
T'as une bonne manière de parler de ma bave. J'aime ça. Voilà. D'un personnage qui existe vraiment, puisqu'il s'agit de Schwarzenegger. Non, je rigole parce que j'aurais évidemment.
Ça fait peur, hein.
J'aurais pu vous en parler au travers d'un. Non, appelle-moi Fred, Seigneur Dieu, c'est beaucoup trop prétentieux. J'aurais pu vous parler de lui au travers d'un des rares bons films qu'il a fait, à savoir Last Action Hero, que je vous conseille d'aller regarder. Mais je vais plutôt vous parler d'un de mes petits favoris, à savoir Monsieur Terry Pratchett. Qui est Monsieur Terry Pratchett, me direz-vous ?
Terry Pratchett.
Qui est Monsieur Terry Pratchett ?
Toi, tu dis pas parce que j'ai un truc avec ça à la fin. Alors, vous me direz qui est Monsieur Terry Pratchett ?
Qui est Monsieur Terry Pratchett ?
Merci, Paul. Eh bien, né le 28 avril 1948. Terence David John Pratchett, on comprend pourquoi il a changé de nom, parce que s'appeler Terence, c'est un peu comme s'appeler Thérèse, c'est dur. Il est l'auteur...
Ça va bien se passer.
Merci les gars. Il est l'auteur d'une des plus conséquentes sagas littéraires, puisqu'il s'agit des annales du disque monde, et on évitera les blagues avec Annal, car elle pue la merde. Une saga qui comporte pas moins de... Excusez-moi. Pas moins de 40 romans, sans compter les livres annexes. Le premier livre est publié en 83 et s'appelle La 8ème couleur. Ça va, Antoine ?
Mais c'est tellement mauvais ! Mais putain, c'est pas possible !
Mais toi, hein, c'est pas parce que t'as pris de la LSD qu'il faut.
Ah, ta gueule !
La 8ème couleur, donc, fit beaucoup parler de lui quand il est sorti, car tout simplement, ce livre était hilarant et satirique et il a lancé une nouvelle vague qui était la parodie d'Heroic Fantasy. Vague qui est arrivée chez nous au début des années 2000, à savoir avec par exemple le donjon de Nullbuck, mais et surtout avec monsieur Alexandre Astier.
Oui.
Voilà. Que je vous rappelle, je jouis quand j'entends son nom. Mais ça pourquoi nous parle-t-on de cette. Vous parlerai-je de cette saga ce. Rien, je vais la refaire. Mais pourquoi nous parle-t-il de cette saga pour les mondes imaginaires, ce fucking, vous vous dites ?
On se dit.
Merci, Paul. Eh bien justement, car les annales du Disque Monde prennent place dans l'univers du Disque Monde, qui est une planète circulaire et plate, posée sur le dos de quatre éléphants, qui sont eux-mêmes posés sur le dos d'une tortue géante qui vogue à travers l'espace.
C'est qui sous les LSD là ?
Rien
c'est
que
intéressant,
ça.
Hein.
Eh oui. Tu comprends pourquoi j'avais ces lunettes maintenant ? Parce que cet auteur les avait aussi quand il écrivait ses romans. Le saga s'articule autour de cinq cycles, centrés autour des mêmes personnages qui parfois se croisent, à savoir Rincevent, le mage handicapable, autant capable de faire de la magie que moi de réussir une pièce montée de 18 étages. Je m'arrête à 12, je peux pas faire mieux. Mémé Sire du Vent, une sorcière qui rappelle plus les vieilles qui font chier les jeunes parce qu'ils font un peu de bruit à 23h. Madame Pigeon. Le gay, et non pas le gay, je ne désigne pas une sexualité quelconque, mais bien les forces de police de la capitale de cet univers, à savoir la ville d'Ankh-Morpork. t'as envie d'y passer tes vacances, n'est-ce pas ? Et Moit Van Liebwig, escroc notoire et beau parleur, qui va se retrouver dans une ascension sociale fulgurante par accident, et c'est surtout mon chouchou, Paul, on parle de toi, la mort. Oui, la mort, le faucheur qui est un philanthropiste tout en hausse de 2m30 en pleine crise existentielle.
Paul, 2m30 ?
Oui, c'était pour ça. On a eu le rire le plus fake du monde de l'autre côté.
Oh,
oh,
oh. Oh, c'est drôle.
Oh, je me gosse.
C'était le rire Télérama. On l'a perdu.
Vous l'aurez compris, c'est un univers complètement barré et délirant dans lequel je me retrouve beaucoup et qui se situe bien loin d'une autre, même si on va voir qu'il n'est pas si différent, car Pratchett est globalement l'héritier des Monty Python et de leur humour bien anglais,
oui.
Et un peu à leur manière adore se moquer de la pop culture et de ses codes. Car avant tout, Pratchett vous aime les enfants. Non. Pratchett est un amoureux de la pop culture, donc il nous aime. Et c'est en se moquant gentiment et en faisant ressortir les incohérences et les clichés de cette culture qu'il bâtit son univers. Ainsi, il analyse pourquoi on les aime et s'en moque, transformant les mages surpuissants de l'heroic fantasy comme notre ami Gandalf en incapable tout justement à faire sortir un lapin d'un chapeau, ou la mort qui est censée représenter l'ennemi ultime en un humaniste refoulé qui cherche à se faire accepter de l'humanité. On y retrouve également des personnages comme Conrad le Barbare, parodie peu subtile de Conan le Barbare, qui est ici âgé de 81 ans, possède un dentier, n'a plus que la peau sur les os et a surtout plus qu'un œil, mais également le commissaire Vimer qui, au lieu d'être le second couteau habituel des films de pop culture, est ici un héros bougon mais au grand cœur. Car Terry Pratchett aime profondément cette culture bis faite de vampires, de loups-garous, de magiciens et de voleurs. Il aime leur montrer son affection en s'en moquant, un peu comme moi avec tous les gens présents dans ce studio. Par exemple, dans la ville d'Ankh-Morpork, les assassins et les voleurs sont organisés en guildes, des associations qui assurent un quota minimum légal de crimes qui sont effectués chaque année. Je trouve ça assez rigolo. Et ce dernier point me permet d'aborder l'autre aspect majeur de cet univers du disque monde, à savoir le fait que Pratchett, un peu comme les Monty Python, aime faire de ses livres une satire de notre société et de notre civilisation. En s'en moquant pas toujours gentiment, ainsi par exemple les aventures de Rincevent servent à critiquer le tourisme et surtout la façon qu'on a d'être ethnocentrique et condescendant envers les autres cultures, que notre n'est pas toujours brillante, n'est-ce pas Front National ? Les aventures de la mort nous font réfléchir sur notre conception de la famille, de l'humanité, mais aussi notre façon de traiter nos mythes et nos légendes. Et mon préféré, donc, Liebwig, critique les institutions comme la poste, la banque et les transports en commun, en apportant également une réflexion sur notre course au progrès. Bref, Pratchett aime également beaucoup notre société, mais également essaie de nous en faire voir les défauts en comparant à un monde absurde et corrompu dans lequel on n'aimerait pas vivre et qui pourtant s'avère ressembler déjà pas mal au nôtre. Parodiant tous les genres, à savoir le roman noir, l'horreur, le fantastique, et portant un regard acerbe et tendre sur notre civilisation et ses défauts, Pratchett sait comment faire rire en faisant aussi réfléchir, et ça se perd, donc c'est assez rare pour être noté. Et parfois aussi en faisant grincer des dents, tant il est doué pour nous faire dire « Merde, c'est vrai qu'on est un peu con quand on fait ça. » Je vous conseille de lire cette saga, d'autant que Pratchett est mort le 12 mars 2015, sans que personne n'en parle en France, le monsieur ayant été un des premiers à obtenir au Royaume-Uni le droit d'entamer une procédure de suicide assisté, dû au fait qu'il souffrait d'une forme rare d'Alzheimer, et il est dommage qu'on n'en ait pas entendu plus parler chez nous.
On a entendu un petit peu parler quand même.
Un tout petit peu, pendant un jour.
Pas beaucoup, ouais,
bah oui.
Pas beaucoup.
Pas beaucoup.
Moi, j'irais de deux minutes
sur le monde, sur lui. Mais on devrait l'inviter quand même.
Moi, je pense qu'on devrait l'inviter, il aurait beaucoup de choses à dire.
Ouais, je pense aussi.
Ouais, tu sais, lui qui aimait bien se moquer de la mort, à mon avis, ça le ferait doucement marrer qu'on fasse trop de trucs sur lui non plus.
Ouais.
Donc, si vous aimez lire, allez lire Terry Pratchett. Et c'est surtout, juste fantastique.
Moi, je conseille deux romans, surtout de Terry Pratchett, qui sont pour moi les meilleurs. Il y a Le Faucheur, qui voit la mort, qui décide qu'elle en a marre de faire son boulot, puis partir s'installer à la campagne dans une ferme. Et ça, c'est tout l'or du monde, parce que c'est plein de poésie, ce roman. Et surtout, Timbré, qui critique la poste, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'humour, et qui vous fera peut-être réfléchir sur pourquoi votre poste n'ouvre pas avant midi.
Et ça n'a pas inspiré David Mourier pour
Si, tout à fait. Tout à fait. La petite mort, le design caractère du personnage est inspiré du faucheur de Terry Pratchett. Et il y a eu trois adaptations filmiques, à savoir une qui est très très bonne, qui est Les Contes du Disque Monde, qui reprend du coup une aventure avec la mort, qui se situe à Noël quand la mort décide de faire le boulot du Père Noël parce qu'il a disparu, qui est juste à mourir de rire.
Pourquoi ?
Ça fait très L'Étrange Noël de Monsieur Jack comme ça.
Non, parce que c'est beaucoup plus bienveillant, parce que la mort aimerait vraiment être le Père Noël, parce qu'elle elle se rend compte que les gens aiment plus le Père Noël qu'elle.
Oh.
C'est très très beau comme truc.
C'est trop mignon.
C'est très très mignon. Sauf qu'à un moment, tu vois la fée des dents se faire assassiner, ça c'est moins mignon.
C'est génial.
Et ça tue ton enfance.
Nice.
Ah, c'est cher.
Un qui était très mauvais de film, et que pourtant Terry Pratchett a toujours considéré comme étant la meilleure de ses adaptations, mon grand désespoir, c'était La Huitième Couleur. Dont personne n'a parlé. Et il y a surtout eu une adaptation de Timbré, le truc sur la poste, en 4 épisodes. C'était une mini-série sur la BBC, 4 épisodes de 50 minutes, et c'était à se pisser dessus de rire. D'ailleurs, je me suis pissé dessus de rire. Voilà, et là, je me pisse encore dessus de rire. Oh, lol.
Je me pisse dessus.
Ah, je me pisse dessus. Oh, lol. Ah, Alzheimer. Bref. on en parlait de toute façon. Donc tout de suite, on va s'écouter, parce que j'ai décidé de rester dans un monde un peu parallèle dans lequel l'artiste que je vais vous faire écouter n'aurait pas fait qu'une seule chanson et serait devenu connu. À savoir, je vais vous faire écouter Demi-Dieu, qui est un rap fait par deux jeunes artistes français.
D'accord.
Voilà, toi tu sais de quoi je parle.
Ouais.
Et on reviendra après cette musique qui, à n'en pas douter, est pleine de talent.
Ok, ça ne commence que maintenant, après la fin de cet air chiant, un petit peu lancinant. Parce qu'on vient te sortir de ton viol quotidien. Parce qu'on est là pour s'enjailler jusqu'au matin. Bello, prépare-toi pour cette autocritique plutôt réaliste, parsemée de rimes dignes des plus grands artistes. Parce que le temps passe vite, c'est déjà la fin de cette intro. Alors suce donc ma bite et à bientôt dans le métro. J'ai ma pensée qu'on nous regarde de dos avec admiration. Qu'on serait les seuls à se dresser devant les abnégations. Le firmament est notre royaume, bientôt on sera à la maison. Alors que résonne notre psaume et que passent les saisons. Et oui, c'est nous la bouée de sauvetage d'un monde en perte. Lors du jugement dernier, on exigera de payer l'addition. On est des boucs émissaires, un bouclier inflexible. On joue peut-être les faussaires, mais notre swag reste inaccessible. On est partout autour de toi en train de t'observer. On est ton ours en plus ta culotte ou ta tasse de thé. On est hal depuis toujours et pour l'éternité. Va falloir vous habituer. On a des milliards de longueurs d'avance sur chacun d'entre vous. On a des radars d'urgence pour voir ce qui se déhanche derrière nous. On s'inquiète pas pour l'avenir, on dévoilera bien nos atouts. Et une balle dans le cœur, une dans la tête, on a les yeux en face des trous. Ok, je dois pas assez d'adjectifs pour qualifier notre attitude, ni assez de quantitatif pour exprimer notre swagitude. On regarde le monde avec des sourires fiers et méprisants. On est des demi-dieux qui restent ancrés dans le présent. Les deux soleils d'une galaxie lointaine, très lointaine. On fait jaillir notre amour comme deux putains de fontaines. Anticonformistes, on arrive toujours à point nommé. On se pointe à l'improviste, devancé par notre renommée. Y'a pas de théorème pour expliquer notre sérénitude. On nage dans un véritable océan de plénitude. Quand l'astre divin se lève, c'est seulement pour nous saluer en tant qu'empereur des étoiles et régent des nuées. Un jour on partira tout droit dans le soleil couchant. Tragique journée où les clochers entendront tous le même chant. Faudra pas venir pleurer devant la tristesse de votre existence, car je ne suis pas pour le concept du droit à la seconde chance. Ok, ça ne commence que maintenant, après la fin de cet air chiant un petit peu lancinant. Parce qu'on vient te sortir de ton viol quotidien. Parce qu'on est là pour s'enjailler jusqu'au matin. On regarde le monde avec des sourires fiers et méprisants. On est des demi-dieux qui restent ancrés dans le présent. J'en pas assez d'adjectifs pour qualifier notre attitude, ni assez de quantitatifs pour exprimer notre solitude. Fils de pute. Fils de pute. C'est la fin, Pélo.
On est al, al,
c'est la
al.
Fin et on se met bien.
Non, 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 c'est pas
mais
possible.
Mais c'était
quoi.
Totalement dégueulasse.
J'ai trouvé ça vraiment génial.
Alors moi je me demande si on a encore des gens qui nous écoutent. Là.
On a déjà plus de gens qui nous écoutent depuis que t'as fait ta première chronique.
Bon mais maintenant on a plus de technique. Putain.
Jérém, reviens. Mais Jérém.
Bon bah.
Bon bah.
Il y a la musique en
plus. Attends, mais écoute, la musique en plus derrière.
T'as pété un cap.
Jérém, tu reviens.
Ah, t'as pu au moins enlever la musique, hein.
Je tiens à présenter toutes mes excuses aux auditeurs pour cette musique.
Non mais t'es taré, hein. Tu manges du caca du wok, tu des pètes avec les jawas.
Je sais pas ce qui m'est, je sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai pété un câble. J'ai entendu cette musique sur mon portable. Il revient vraiment pas.
Il est vraiment parti, je crois.
Quelqu'un peut aller le chercher.
Oh ça va.
Voilà, merci.
Tu l'as vexé. Oh.
Non mais voilà que.
Mais il est parti faire caca.
Non, je crois qu'il est parti vraiment vexé. Non mais voilà, je suis vraiment désolé. Je sais pas ce qui m'est arrivé. J'avais envie de passer cette musique qui a été faite par des potes à moi que je salue bien bas.
Et dont tu citeras pas le nom pour pas.
je dirai pas le nom pour pas les vexer. Et donc c'était Demi-Dieu. Franchement, moi je la trouve très rigolote cette musique. Mais c'est vrai qu'elle est pourrie.
Ça fait une super transition avec ma chronique.
D'accord. Ah ouais, d'accord.
Donc tu reviens maintenant, toi.
Vous savez que les micros étaient ouverts, vous pouvez continuer à parler en fait.
Toutes mes excuses, Jérém.
Eh, hey, tu nous as quand même laissé la musique, enculé, quand t'as pu.
Oui, en plus, t'as laissé la musique. Alors,
j'ai rien laissé, moi, j'ai
ah,
coupé.
Ah, si, on l'entendait encore.
Je te jure, on l'entendait encore.
Non, c'est parce qu'elle reste dans la tête en fait. C'est simple dans son cerveau. Et
ah, preuve qu'elle est vraiment bonne.
Oui, c'est quoi d'intéressant depuis.
Déjà, tu me rends mes lunettes pour commencer.
Il y a un blanc, genre, rien.
Et puis, pas grand chose.
En tout cas, vraiment, encore une fois, désolé aux auditeurs pour cet instant de haute musique.
Non, mais vas-y, non, mais excuse-toi, ok.
Ah, ouais, je m'excuse, il y a pas de problème. Mais je m'en fous parce que moi, j'ai kiffé. Voilà.
On passera du MC Circulaire la prochaine fois.
Et du Jesse Garonne.
Donc, on enchaîne tout de suite avec quelle musique, Paul?
Avec je sais pas.
Bon, on va peut-être commencer par ta chronique. Tu vas nous parler de quoi?
Ouais, c'est un peu long. Hein.
Ouais, en vrai, je sais pas. Genre, je vais écrire un truc, mais je me dis.
Bon, Léna, fais tes preuves.
Bon, alors, ça fait une putain de transition avec ta musique en fait.
Ah bon?
Ouais, c'est génial parce que je vais parler de Deus Ex. Donc, il y a Dieu dedans.
Ok, enchaîne.
Okay.
Génial, putain.
Le moment de solitude.
Est-ce que ça sera la qualité d'écriture de la musique en question qu'on vient d'écouter?
La qualité d'écriture de la chronique, tu veux dire?
Oui.
Oui.
Est-ce qu'on parle bien de qualité là?
Tu peux me passer mes lunettes avant que je te pète les deux?
Alors là, non, c'est plus de la quantité en fait. Rouge, mais bon alors, donc aujourd'hui pour changer un peu, j'ai décidé de vous parler de jeux vidéo. Et pas de n'importe quel jeu, oh non mes chéris, d'une trilogie merveilleuse qui fait figure de culte dans les œuvres dystopiques de la pop culture. Cette trilogie en question, c'est Deus Ex. Et puisque j'y ai pas joué au deuxième, puisqu'il est visiblement moins intéressant que les autres en termes de gameplay, bien qu'il soit doté d'un bon scénario, je me dis donc qu'à l'instant que je devrais peut-être y jouer finalement, je vais me concentrer sur le premier du nom, ainsi que sur le troisième, Deus Ex Human Revolution, oh yeah, BB300 représente, seuls les vrais savent. Le premier Deus Ex est sorti en 2000, il a été conçu par la société Yonstorm sur l'initiative de deux de ses salariés, Warren Spector et Harvey Smith, et a été édité par Eidos Interactive, à qui l'on doit Tomb Raider, Hitman ou encore plus récemment Sleeping Dogs.
C'était des bons salariés, ça. C'était des bonnes initiatives,
ouais,
quand même.
Des bonnes petites initiatives, ouais, carrément, ça c'est des bons gars, ça. Le jeu vous plonge en 2052 dans un futur dystopique et cyberpunk. Vous incarnez alors J.C. Denton, qui est un des premiers humains à bénéficier d'un corps pourvu de millions de nanorobots qui lui confèrent des capacités surhumaines.
C'est pas Jesse Garonne plutôt?
Alors c'est pas Jesse Garonne.
Je suis sûr qu'il allait faire la blague, putain.
C'est J.C. Denton, et j'y ai pensé en écrivant la chronique. Alors ce J.C. Denton rejoint l'UNATCO, une organisation antiterroriste internationale affiliée à l'ONU. Mais votre personnage, qui est ni con ni dupe, se rend vite compte que les terroristes qu'il chasse ne sont peut-être pas ceux qu'il imaginait, et va surtout se rendre compte que l'UNATCO est loin d'être innocente dans le développement d'une maladie qui décime la population et qui s'appelle la peste grise. En effet, un vaccin contre cette peste grise existe, l'ambroisie, mais en très faible quantité seulement, et est réservé aux personnes de la haute société, les hommes riches, influents, les scientifiques, intellectuels, politiques et autres militaires. Votre personnage se retrouve alors tiraillé entre les deux camps et va devoir faire des choix. Mais ce qui est génial avec ce jeu, c'est que ma phrase précédente est largement inexacte. En effet, dans Deus Ex, ce n'est pas le personnage qui va faire les choix à votre place, c'est vous qui allez les faire. Bien qu'évidemment, il y a une trame de base obligatoire à suivre, vous allez durant tout le jeu faire des choix plus ou moins cornéliens qui auront une influence directe sur les autres personnages, sur vous-même, mais aussi sur le monde entier. Et sur la fin, du coup. On en conclut alors que l'issue du combat que mène J.C. Denton peut être multiple, il peut être le sauveur de l'humanité, tout comme il peut aussi être celui qui va plonger entièrement l'humanité dans le chaos. On a donc un des meilleurs scénarios jamais écrits pour un jeu vidéo, et Deus Ex s'offre en plus le luxe de ne pas s'arrêter là. Le gameplay est relativement simple et intuitif, mais la difficulté est réelle. Vous pouvez réussir les missions de manière différente, en empruntant différents chemins, en y allant soit à la bourrin, très déconseillé, ou tout en finesse. Les graphismes, bon, sont à la hauteur d'un jeu développé en 2000, et vous allez rencontrer de nombreux décors, passant de New York à Shanghai, en passant par les catacombes de Paris.
Ah, les catacombes.
Il était très beau pour l'époque, Deus Ex.
Si,
c'était quand même des gros graphismes.
Deus Ex n'a jamais été réputé pour ses graphismes.
Non, mais pour l'époque, c'était...
Même le dernier, d'ailleurs.
Quand tu vois Tomb Raider à la même époque, excuse-moi...
Avec ses seins en triangle, le mec savait pas faire des...
Et quand tu vois le Tomb Raider de maintenant, tu te dis, bon, ils ont quand même fait mal.
Avec ses seins en cercle.
Putain, mais Fred...
Oh, mais merde. La géométrie et toi, ça fait deux, quoi.
Un demi-cercle, ça va.
Oh, bref.
Ah, t'aimes bien les seins en pixels. Hein.
Et oui. Coquine. Et oui.
Sans transition, on va passer à Deus Ex 3ème du nom, alias Deus Ex Human Revolution.
J'ai développé... un t-shirt de ça.
C'est vrai?
Ouais, eh bah, je l'ai gagné à la Japan Expo.
Et eh bah tu me le passeras. Et tu me rendras mon t-shirt aussi enculé.
Ah merde, c'est vrai, putain.
Alors développé cette fois par Eidos Montréal, par des petits Québécois, et édité par Square Enix, Human Revolution fait office de préquel de Deus Ex. En effet, l'histoire se déroule ici en 2027. Les multinationales commencent à prendre le pouvoir sur les gouvernements et développent leurs propres armées. On incarne alors Adam Jensen, chef de la sécurité chez Sarif Industries, un des leaders du marché de la biotechnologie et de l'augmentation mécanique d'êtres humains. Les thèmes abordés ici sont à peu près les mêmes que dans le premier Deus Ex, à savoir l'essor et la puissance des multinationales dans la mondialisation, l'espionnage, l'éthique ou au contraire la non-éthique du transhumanisme ainsi que la survie de l'homme. L'entreprise dans laquelle travaille Adam Jensen est attaquée. Ce dernier se retrouve alors salement amoché, mais c'était sans compter l'aide de Sarif Industries qui va littéralement le transformer, contre son gré plus ou moins, en homme bionique pour qu'il survive. Il va alors être chargé par l'entreprise de retrouver les coupables de l'attaque et de retrouver les scientifiques kidnappés. Mais pareil, Jensen va comprendre qu'il n'y a pas de gentil dans cette histoire, que tout le monde a quelque chose à cacher. Et cette fois-ci, vous allez visiter la ville d'Angsha, ville asiatique totalement imprégnée de l'univers cyberpunk, largement dominée par la couleur orange. Ça fait d'ailleurs un peu penser à la ville dans Enter the Void de Gaspar Noé.
C'est comme ça que je vois en ce moment.
ouais, du coup. Mais alors, vraiment, la ville de... Rien que ça... Enfin, faut jouer à ce jeu rien que pour ça, en fait. L'ambiance de la ville de Angsha, c'est un truc de malade, c'est hyper beau. Et ça fait aussi penser un petit peu à... dans Cloud Atlas, la ville de Séoul.
Oui, Néo-Séoul.
Néo-Séoul, ouais, ça me fait penser à ça. Vous allez également vous rendre à Montréal, ainsi, enfin brièvement à Montréal, ainsi qu'à Détroit, ville sûrement pas choisie au hasard d'ailleurs, vu la situation actuelle de la ville. Inspiré par Blade Runner et Robocop, ce troisième opus vous en met clairement plein les mirettes. Vous
ça,
avez
ça me
toujours.
Fait
ah, bah faut que tu joues, mec. Vous avez toujours des choix à faire qui influeront notamment sur la fin du jeu. Même si malheureusement, il y a trois fins possibles, du coup, dans le troisième. Et elles sont un peu plus convenues que dans le premier opus. Ça, c'est un peu dommage, c'est un peu trop bon. Enfin, bref.
Trop manichéen.
Ouais, c'est un peu trop manichéen, il n'y a pas vraiment de nuance. En tout cas, donc, dans les. J'en ai pas du tout parlé, mais dans les trois jeux, il y a une histoire d'Illuminati, de conspiration mondiale, etc.
On avait déjà parlé des Illuminati une fois.
Et de
oui, avec Laika.
Du groupe Bilderberg, etc. Mmh. Ouais. Mais ça, c'est le jeu qui va vraiment vous faire croire en fait qu'il y a des Illuminati, c'est assez flippant.
Bah, quand tu vois,
c'est très
déjà,
conspirationniste.
Ça a l'air assez épique.
Ouais, et alors, ouais. Ça me fait marrer que tu parles de Blade Runner parce que la semaine dernière, Harrison Ford a dit qu'il reviendrait dans son rôle de Dick de Rick Eckhart. De Dick.
Ouais.
Enfin, bah, dans son rôle de Blade Runner pour Blade Runner 2.
Ça va puer la merde, à mon avis.
Mais par contre, ça sera réalisé par Denis Villeneuve.
C'est à voir en vrai.
Alors, c'est pas le meilleur. Enfin, c'est pas le pire qu'ils auraient pu choisir.
Mais c'est pas le meilleur non plus, mais c'est pas le pire.
C'est... Ouais, mais en même temps, je sais pas qui ils auraient pris.
Mais j'ai juste remarqué en fait qu'en ce moment, il y a une grosse génération de jeux vidéo qui s'oriente vers le hack-to-play. Genre, en gros, en fonction de tes choix, ça, justement, on a vu ça que j'aime parce que, comme je disais, Walking Dead, ils ont fait un jeu vidéo Walking Dead.
Point and click.
À chaque fois que tu choisis tes paroles, du genre, ton jeu s'influence. Ouais. Assassin's Creed, ils commencent un peu à faire ça. D'ailleurs, le prochain Assassin's Creed va se jouer avec les yeux. Ça va jouer avec les yeux sans
avec
le
truc là, le Oculus Rift.
Et celui d'après, ce sera avec ta tub.
Ça dépend quel genre de jeu. Enfin,
Star Wars aussi.
Il y a eu aussi une grosse polémique. Il y a eu aussi une grosse polémique.
Tu prends une capote fluorescente et ouh, je suis un Jedi.
Jérém, tu disais.
Je disais qu'il y avait une grosse polémique en ce moment autour de The Order 1888, je crois. Parce qu'en gros, c'était que du QTE, ce qu'on disait hier. C'est appuyer sur L2, appuyer sur L3, courir un peu et puis après, voilà, vous vous retrouvez.
C'est pas du RPG, The Order.
C'est du RPG.
C'est non, c'est un FPS en QTE. Donc,
c'est très bizarre comme truc, ça.
Ouais.
C'est assez différent. En fait, tu alternes les périodes de FPS et des périodes donc, de QTE où, en gros, tu te bats avec quelqu'un et tu dois appuyer sur t'sais, les trucs sur l'écran, genre appuyer sur L2.
Ouais, combo et tout ça.
Voilà. Et ce que les gens ont détesté, c'est que c'est magnifique. L'histoire est hyper bien branlée. Par contre, la durée de jeu, c'est 6 heures. Quoi.
Ouais, mais il a pas bien marché. Comme il a pas très bien marché.
Il y avait, le même reproche de fait, le truc avec Ellen Page, là. The Last of Us,
non,
Remember Me, The Last of Us.
Non, The Last of Us, il y avait une grosse.
Non, mais au niveau du jeu, il disait que c'était pas assez interactif, The Last of Us, et que c'était beaucoup trop.
Je trouve que ça a été trop, moi, j'avais compris ça, parce que c'est vraiment calqué sur. En gros, c'est ton expérience de jeu totale, en fait, sur The Last of Us. C'est genre, chaque chose que t'as beau faire, ça va tout influencer. Ouais. En fait, dans le monde du jeu vidéo, maintenant ils veulent tous faire ça. Genre, en gros, ils veulent vraiment que le joueur soit dedans, quoi. Et sauf qu'en fait, à un moment, enfin, faut pas perdre l'esprit que c'est un jeu, quoi. Enfin,
ouais,
ça va vraiment trop loin.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu. Enfin, on voit genre les jeux où on avait des choix, c'est pas tout nouveau. La preuve, il y a eu Deus Ex.
C'est un des premiers
à
avoir fait ça.
C'est un des premiers. C'est juste qu'en fait, il y a eu une longue période largement alimentée par des jeux comme Call of Duty,
Fable.
Battlefield.
Fable, vous vous rappelez pas de
Fable,
c'était
Fable, t'avais des choix, ouais.
Ouais, c'est ça qui disait.
Mais genre,
ça, ouais.
T'avais, en fait, le truc, c'est que t'as eu plein de jeux qui faisaient l'inverse, qui étaient ultra scriptés. Et t'avais aucune. Ces limites ont te poussé pour que t'avances, quoi. Donc Call of Duty, etc. Et même eux, d'ailleurs, dans leur je sais plus, il y a un opus de Call of Duty où ils ont essayé de faire quelque chose. Enfin bon, après ça reste du Call of, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a certains jeux maintenant qui essaient de faire ça aussi pour donner plus de liberté. Aux...
Et en fait, je pense que dans l'univers du jeu vidéo, on s'approche de quelque chose en fait entre le choix entre le fait de raconter une histoire et proposer du gameplay.
Ouais.
Je pense qu'il va y avoir vraiment deux types de jeux, des jeux vraiment foutus que sur le gameplay, genre quel que soit le gameplay, hein, et d'autres qui vont chercher à raconter des histoires, donner une expérience plus qu'autre chose.
Et bien justement, ça me rappelle ce qu'on disait tous les deux, Jérém, que maintenant il y a beaucoup de. On jouait au dernier Tomb Raider, mm-hmm. et on disait que c'était marrant parce que beaucoup de films allaient devenir. Enfin, beaucoup de jeux allaient devenir des films à jouer en fait.
Ouais, c'est ça.
Et voilà.
Je sais pas s'il y aura vraiment. Vraiment
j'ai l'impression ça. Qu'on tend vers ça.
Dans quelques années, il y a quelques années, il y avait eu Heavy Rain.
Magnifique
truc,
Heavy Rain.
QTE tout le temps quasiment.
Magnifique.
Qui avait un putain de scénar, mais après au niveau gameplay, c'était chiant.
Il vient de changer, il vient de sortir.
Non, il est sorti.
Il y en a un nouveau. Evil Without, je sais plus quoi, je crois.
Without Evil. On va passer à la musique. Qu'est-ce qu'on va s'écouter, mon petit Paul?
Du coup, on va écouter une des musiques de Deus Ex Human Revolution, qui a été la bande originale a été composée par Michael McCann, et du coup, on va écouter Icarus, qui est le thème principal.
Et on reviendra juste après avec Jam et son billet d'humeur. We'll be right back. Radio Campus Rennes 88.4, on revient après Icarus de McCann sur Melting Pop, épisode 21, avec le billet d'humeur de Jérémy.
Donc un monde parallèle, si on en prend une définition simple, c'est un monde qui n'est pas le nôtre, mais qui pourrait ou aurait pu être le nôtre. Un monde où on n'évolue pas, nous-mêmes, mais où des personnes qui nous ressemblent existent. Ces mondes sont apparus sous la plume et dans l'esprit de grands créateurs tels J.R. Tolkien, J.K. Rowling. Bon, là, je fais mousser les fans de Harry Potter. Moi, je trouve pas que c'est de la littérature. Alain Damasio, Fritz Lang, Del 33030 ou bien encore George Orwell. Mais c'est aussi le propre des créatures d'images, qu'ils soient photographes ou cinéastes. Ils observent notre monde, notre univers dans lequel nous déambulons pour, pièce par pièce, créer leur propre monde, leur propre vision de nos vies. Ils peignent quelque chose qui a les formes de la réalité, ses couleurs et sa vie. Mais ce n'est au final que la vision d'un homme sur notre réalité, et cette réalité n'est dans aucun cas la nôtre. Un monde parallèle, c'est aussi celui du rêve, de l'onirisme et du sommeil. Lorsque nous rêvons, notre inconscient crée, par succession d'images, un monde qui se base sur notre réel, notre vécu. Ces mondes oniriques ressemblent à notre monde, mais le temps y est distendu. Les événements s'enchaînent sans cohérence, des créatures improbables y siègent, tels des rois et des reines. Le rêve, c'est le monde parallèle accessible à chacun, mais différent pour chacun d'entre nous. Au final, les mondes parallèles sont le royaume de l'autre, de l'entité qui n'est pas nous. Les perceptions, les ressentis de chacun en font un monde à part, inaccessible à l'autre. Chaque être humain vit sa propre perception d'une réalité limitée à lui-même. Je ne peux entrer dans le monde de mon meilleur ami comme il ne peut pénétrer dans le mien. Il y a autant de mondes parallèles que d'êtres humains, et l'art peut nous permettre de faire partager à l'autre notre vision du monde qui est aussi le sien. J'espère que l'être humain ne s'arrêtera jamais de créer des mondes, d'extirper de son imagination des parallèles. Car s'il arrête de créer ces mondes, il arrête de rêver. Et sans rêve, notre monde serait bien fade.
Merci Jérém.
Merci Jérém. Tout de suite, on s'écoute quoi ?
Rhône Bora avec en featuring Alain Damasio.
Et on reviendra pour la conclusion avec Léna.
La nécessité d'être, quoi. Et c'est ça qui vous a énervé. Putain de merde, quoi, c'est quand même extraordinaire.
On revient après Rone Bora. Est-ce que je prononce bien le titre ?
Rone, et le titre c'est Bora.
Rone, on revient après Rone Bora. Sur Radio Campus Rennes 88.4 dans Melting Pop épisode 21 pour la conclusion de l'émission avec Léna. Vas-y, fais tes preuves, petite, c'est le moment de te distinguer.
Baptême du feu.
On se calme.
Tu vas nous faire le petit tour d'actualité.
Ouais, voilà, je vais faire le petit tour d'actualité sur les prochaines sorties, bah, du coup, dans le monde imaginaire. Moi j'aime plus me baser sur la SF parce que c'est là où il y a le plus de trucs qui vont sortir.
Ça revient à la mode.
Donc, je vous laisse choisir. Vous voulez commencer par cinéma ou par jeux vidéo ?
Le choix est trop... Ah !
Bon, cinéma, envoie, vas-y, je suis comme ça pour...
Alors, la semaine dernière est sorti apparemment un nouveau navet, puisque sur plusieurs plateformes, il a eu une sale critique. C'est le cher Divergent 2.
En même temps...
Voilà.
C'est pas étonnant vu la qualité du premier.
Vu la qualité des bouquins.
Non, je suis pas d'accord, les bouquins ça passe.
Je savais avec quelle allait finir aux premières pages et ça c'est fort, je n'avais jamais fait ça encore.
Donc ouais, il y a Divergent 2, on va passer hein, parce que...
T'as dit Verge.
Ouais, Verge.
C'est énorme.
Ouais, pardon.
Il y a à peu près l'histoire. On rappelle l'histoire un petit peu.
Ah oui, l'histoire, ouais, c'est bah, du coup pure SF, quoi. Ouais. Monde dystopique, c'est dans un monde post-apocalyptique où la société a été réorganisée autour de 5 factions.
Dans tous les trucs pour ados dystopiques, c'est en 5 factions, c'est quand même incroyable ça.
Bah non, Hunger Games c'est 12 et Labyrinthe, t'en as pas.
Bah il faut toujours des factions, des trucs comme ça, comme si on allait faire ça le jour où on allait se réorganiser. Ouais.
Donc ouais, les 5 c'est les audacieux, les érudits, les altruistes, les sincères et les fraternels. Donc
t'as la nana principale. Tu peux pas être altruiste et fraternel, tu vois. C'était altruiste, c'est forcément un fils de pute.
C'est justement ça le truc, c'est que bah, justement
oui,
la nana
fille, elle est divergente.
Triste, elle est divergente et elle a toutes des factions en elle. Ouh.
Genre donc, c'est tellement ouf d'avoir plusieurs qualités.
Donc ça va être justement bah, le combat de Triss pour convaincre les 5 factions.
Tu ferais une bonne voix de bande-annonce, tu sais, genre le nouveau film de Michael Bay.
Je pense pas, avec ma voix de Chrissel, je pense pas que ça va marcher beaucoup. Mais, ouais. Donc là, futur film qui a l'air juste oufissime, qui sort le 20 mai 2015 par Brad Bird.
Toi, tu sais faire toi les trucs de suspense et tout
genre... Avec George Clooney. Avec Hugh Laurie. C'est Tomorrowland à la poursuite de demain.
Et c'est fait par qui?
C'est fait par, je l'ai dit, Brad Bird.
Le non. Papa des indestructibles.
Enfin, Disney, c'est pas Disney.
Si, c'est produit par Disney.
Oui, ça va, calme-toi.
Première fois que j'attends un film Disney depuis 10 ans.
Ouais, c'est vrai qu'il a l'air plutôt pas mal en vrai.
Alors moi j'ai un problème parce que le titre du film c'est le Tomorrowland. C'est un nom, enfin du festival.
Oui,
c'est vachement le moins. Qui fait
nul.
Oui, voilà, qui est vachement nul, donc j'irai pas se voir ce film juste pour ça.
Ce film
non,
a l'air juste
ils ont changé le nom en français, ils ont mis à la poursuite de demain, je pense, peut-être à
ça
cause de ça.
C'est un peu kitsch quand même. Hein.
Ouais, non, mais de toute façon, c'est Disney, hein, c'est toujours un peu kitsch hein, les titres. Hein. Mm. Donc, du coup, bah, Tomorrowland, ça parle de Kazeyn, une adolescente brillante et optimiste.
Dans la bande-annonce, elle est montrée au début dans un commissariat. Donc, en termes d'avenir brillant et optimiste, j'ai déjà vu mieux.
Ouais, mais c'est toujours une badass. À chaque fois, les mecs, les petites bad girls et les bad boys, ils sont toujours hyper intéressants, hyper intelligents. Ils sortent de tôle à chaque fois. Donc, c'est magnifique. Qui est douée, elle est, bah, donc, cette nana, elle est douée d'une grande curiosité scientifique et franque. Par George Clooney. Lui, c'est un homme qui fut autrefois un jeune inventeur de génie avant de perdre ses illusions. Ils s'embarquent tous les deux pour une périlleuse mission. Wow, voilà.
Alors, là, comme ça, franchement, non, regardez la bande-annonce, ça va
ouais,
vous faire
malheureusement, c'est le synopsis fait par Disney, donc c'est... voilà. Mais en vrai, la bande-annonce est juste ouf, et le visuel est incroyable, et ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment cool. C'est vraiment un film à voir, je pense.
Après, croisons les doigts pour que ce soit pas que de la poudre aux yeux.
Bah, je pense surtout une claque visuelle après avoir... Enfin, les acteurs, franchement, Hugh Laurie en méchant.
Les acteurs sont
cool. Hugh Laurie en badass.
Ça peut être hyper bon, ça.
Celui qui jouait Dr House, pour ceux qui ne savaient pas, et franchement, ça peut être pas
mal. Mais il fait tout, ce mec. Il fait tout.
Ouais, il joue bien, ça.
Donc, ouais, et du coup, le troisième est le plus attendu, selon moi. Et là, c'est...
Hunger Games 5.
Non. Non, c'est Mad Max Fury Road.
Oui.
Putain, qu'il a l'air génial. Ah mon,
oui,
dieu,
mon dieu,
il a l'air
mon
trop
dieu,
trop
mon
bien.
Dieu, mon dieu.
Et il sort le 13 mai 2015, donc c'est tout bientôt. Et...
Tu sais comment nous aimer doué, toi, c'est bien.
Ah non, mais ça a l'air génial. Et puis en plus, les acteurs, Tom Hardy, Charlize Theron, Nicolas Hoult, ils se font plutôt plaisir en fait.
Tom Hardy en Mad Max, ça va être.
Puis même le réel George Miller, c'est un dieu. Enfin, clairement, il est vraiment, vraiment, vraiment bon.
Il a fait quoi d'autre?
Mad Max.
Il est Mad Max. Il a fait les Mad Max et il a participé au scénar de Sin City.
Non, ça, normalement, ça va être un film hyper badass.
Ça va être très épique, je pense.
Mais il se pourrait qu'il fasse aussi l'ouverture du Festival de Cannes aussi.
Ah,
avec Mad Max. Oh putain, ça.
Ouais, Mad Max. Ouais.
Bon, mais normalement, Télérama va se faire chier cette année au Festival de Cannes.
Attends, il y aura Mad Max au Festival de Cannes.
Il paraît qu'il sera l'ouverture.
Ouais. Bah,
il y aura,
tu sais, l'ouverture de Maîtresse, c'était Gatsby, hein, donc.
Les frères Cohen en présentateur,
ça c'était Robin des Bois.
Ouais. Qui est nul d'ailleurs.
Non, il est pas nul.
Ah non, il est nul.
C'est le moins bon où il y a Russell Crowe dedans, mais il est
pas
mauvais.
Nul, Robin des Bois avec Russell Crowe. Faut arrêter de dire ça.
Bref.
Oui, donc pour Mad Max, le synopsis, c'est le même que le premier. C'est juste que c'est une revisitation.
Ah non, il avait dit que ce serait une suite, Georges.
Ah non, 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 c'est vraiment le même truc. Système.
D'accord.
Enfin, c'est le même truc, c'est juste qu'en fait, t'as pas. Comment il s'appelle l'acteur de base?
Mel Gibson.
Mel Gibson, qui a pas voulu reprendre le rôle. Du
ce qui est compréhensible. Ça aurait fait un truc à la Harrison Ford, sinon tu vois.
Je suis sûr que Tom Hardy va foutre une branlée à Mel Gibson.
Ouais.
Ce sera bien meilleur que lui.
Bah, il était jeune aussi, Mel Gibson, donc c'était
hyper jeune, parce que c'est ses premiers rôles.
Oui, c'est vrai.
Ça va comme premier rôle, quoi.
Retourner dans le désert australien en plus, celui-là.
Ouais.
Ça va être super badass.
Ça va être trop bien.
J'ai lu une putain de critique sur justement Mad Max et tout ce qui s'est passé autour de ça. Personne ne comptait sur Mad Max quand il
en même temps, c'était hyper couillu.
Mad Max, c'est le film qui a lancé la science-fiction dans
le
cinéma
budget,
international.
Et puis, surtout la science-fiction avec de l'ultra-violence dedans.
Ouais.
Mais genre, le budget était catastrophique. Ils se sont dit. Mel Gibson, il était pas connu, donc du coup, c'est pour ça qu'il a dit oui. C'était en Australie, ils avaient pas de moyens, ils avaient rien, ils ont jamais pu. Ça fait un carton mais monumental, quoi.
Ah bah c'est mythique, hein, maintenant.
George, rappelle-moi son nom.
George Miller.
Il a insisté pour que les effets spéciaux de celui-là soient pas entièrement numériques.
Ouais. Pas du tout.
C'est un des derniers films où il y aura beaucoup d'effets en pratique. C'est-à-dire les effets que tu verras, ils ont été faits pour de vrai, quoi.
Genre tu vois Tom Hardy sur
Donc un film qui
vitesse.
Pollue beaucoup.
Donc un film qui pollue beaucoup en effet. Et ça on oublie de le dire. Hein. Les écolos ils se sont fait brûler pendant le film. Voilà.
Donc ouais, bon, sinon bah sinon ouais les jeux vidéo du coup
ouais,
ça vous dit
toujours hein.
Alors moi il y en a un j'en ai jamais entendu parler, je sais pas si vous en avez entendu parler, ça a l'air complètement épique, c'est Tom Clancy's The Division.
J'ai déjà entendu parler
Tom Clancy's, ouais.
C'est par la Massive Entertainment et Ubisoft Entertainment.
Non, mais Ubisoft de toute façon j'y crois eux, mais
ça a l'air quand même cool.
Je sais ce que tu dis, je faisais une expérience, mais vas-y, continue.
Non, ton cœur, on le sent pas derrière le micro, Fred.
Celui-là, c'est un RPG en plus. Donc,
on a
pas ouais.
Sur quoi, sur quelle plateforme?
T'as Xbox, PC, PlayStation 4.
D'accord,
ok. Donc, ça a l'air assez cool. C'est situé dans un futur proche, mettant en scène des survivants prêts à tout pour sauver leur peau après une terrible pandémie qui a ravagé la planète.
Mais c'est pas Resident Evil.
Ça fait penser à l'effort d'aide un petit peu, ça.
Oui.
Tom Clancy,
c'est une
bonne nouvelle de ouf, ce mec, c'est génial.
Ouais, c'est clair. Non, c'est vraiment
Tom Clancy.
C'est celui qui écrit les livres.
Oui, bah justement, il est pas très très bon au niveau renouvellement.
Ah non, c'est ironique. C'est purement ironique.
Ah ouais, ça a l'air assez cool pourtant.
Ouais, je sais pas, je suis fou.
C'est un des films les plus. Enfin, un des jeux vidéo les plus attendus de 2015. Donc, ensuite, t'as Star Wars Battlefront.
Putain, yes.
Ça va être bien. C'est marrant, j'ai l'impression qu'ils jouent sur les ados qui sont encore en nous, tu vois. C'est terrible, hein, entre Mad Max et ça.
Star Wars Battlefront, c'est vraiment une putain d'arlésienne. Ouais. Ça fait des années qu'on l'attend. Enfin,
il y avait le premier et le deuxième qui étaient déjà sortis. Hein.
Ouais, mais génial, le 3, ça fait des années qu'il est. Il a été abandonné, repris. Enfin,
je veux rejouer des Jedi.
Ah, ça va être trop bon.
Je voudrais pouvoir jouer autre chose qu'un Stormtrooper.
Justement, je viens de voir un article comme quoi il y a la première école de Jedi qui vient d'ouvrir en Belgique.
Ouais.
Mais oui, j'ai vu ça, ouais, c'est énorme.
Ces Belges, ils ont vraiment tout compris. Ouais. Bon,
ils leur apprennent à maîtriser la force.
Ah non, je trouvais ça génial. Avec
des Léna, continue, je t'en prie.
Ouais, donc lui, c'est un FPS. Donc voilà.
C'est un FPS ?
Ouais, c'est un FPS. Ah,
ça va être un FPS.
Ouais.
C'est un FPS
de base. Ah non, c'est un TPS.
Third Person Critique, ils avaient mis FPS.
Oui, oui, parce qu'ils...
Mais après, savoir.
Oui, non, mais c'est un TPS. C'est normalement, c'est un TPS.
Tu pouvais jouer à la première personne si ma mémoire est bonne.
Oui, oui, tu pouvais passer en première personne.
Ouais, c'est c'était ça.
Sur un mode.
Ah, en TPS, je pense que c'est mieux quand même.
Oui, mais je pense que tu auras encore le choix, à mon avis.
Ouais,
enfin bref, on enchaîne.
C'est probable, ouais. Après, bah, t'as Halo 5.
Ouais. Alléluia, je suis sûr qu'ils sont contents, je vous en perds tous.
Je crois qu'Antoine est content.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Ah non, mais ça, c'est le jeu que j'attends de l'année, quoi. Putain, c'est une saga, c'est génial.
Moi, je suis pour Battlefront, quand même.
Ah non,
j'aime pas.
Ah, non. Pour l'histoire d'Halo, déjà, rien que pour
ça, la BO...
Je
connais pas bien, mais c'est juste que Battlefront, c'est Star Wars, et Star Wars, moi, il pourrait me vendre des céréales, j'achèterais.
Sachant que là, pour Battlefront, c'est genre D.I.C.E. qui le produit. Donc c'est les mecs qui ont fait Battlefield.
D'accord.
Les Battlefield.
Donc, d'accord.
Ouais, les graphismes sont.
Ouais, donc ça va être complètement ouf, ouais, visuellement.
Ça risque d'envoyer salement.
Ouais.
C'est quoi le synopsis de Halo ?
Halo, c'est. Alors, si on suit un soldat évoluant dans un univers futuriste, peuplé d'aliens particulièrement menaçants.
D'accord. C'est pas comme le 1, 2, 3 ?
Non.
C'est pas du tapis Master Shift.
D'accord.
Okay. C'est pas pareil dans 1, 2, 3, moi je vous fais toute la hiérarchie.
Non, on fera ça une autre émission. Là sinon ça va prendre une heure, donc on va pas.
Ouais, je vous fais tous les noms, personnage par personnage. Qui meurt,
tu les feras en off.
On te croit, Antoine, t'inquiète pas.
Je balade. Sinon ça va être méga rapide, littérature et musique, vu qu'il y a pas grand chose. Littérature, c'est toujours de la merde. Donc tous les jours, les trucs dystopiques. En ce moment, c'est un gros scandale, tout ce qui est imaginaire, science-fiction et tout ça en littérature. Ouais. Donc, à part si vous avez envie d'acheter Les Gardiens de l'Éternité, tome 12.
Oui, moi j'en ai très envie.
Qui a l'air vachement fascinant. Sinon, niveau musique, bah, c'est des dieux des années 90, du Big Beat. C'est les Prodigy.
Oui.
Et leur nouvel album qui sort le 30 mars.
Et ça tombe bien, si c'est ta dernière, c'est ton dernier mot ?
C'est mon dernier mot.
Très bien. Parce que ça tombe bien, parce qu'on va enchaîner là-dessus, pour se quitter. On va écouter quoi, du coup, Léna ?
The Days is My Enemy, c'est ça ?
Moi, j'ai pas de musique en fait.
T'as pas de musique ?
Non.
Oh, alors, on va chanter ?
C'est parti. 1, 2, 3.
Non. Surtout du prodigy.
Finir de perdre les auditeurs avec ma musique plus celle-là.
Allez, on va se quitter sur les Sonics.
Oui,
alors,
vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, à savoir le Facebook, le Twitter. N'hésitez pas à nous faire des commentaires, ça nous ferait vraiment plaisir à partager l'émission. Vous pouvez nous retrouver tous les lundis de 13 à 14h sur Radio Campus Rennes 88.4. Je m'en fous, je continue, je suis un dingue. Et nous suivre sur le site de Radio Campus, radiocampusrennes.fr. Je vous quitte dans la basse-cour en attendant. Prenez soin de vous, buvez des smoothies, prenez soin du rock'n'roll, les enfants. Bisous!
Ciao!
À la semaine prochaine, bande de facochères!